La quotidienne, avec Michel Cloutier et Izzy Lévesque. Un regard sur l'actualité agricole.
Bienvenue à cette quotidienne. Mon nom est Michel Cloutier et comme à l'habitude, on est avec nos panélistes aujourd'hui. On a Yannick Patelli de la Vie agricole, également Michel Saint-Pierre qui est avec nous. Bonjour messieurs, ça va bien?
Bonjour Michel. Bonjour, Michel.
On va parler d'un côté, comment je pourrais dire, on se retrouve un peu plus en zone urbaine qu'on a l'habitude de le faire là, aujourd'hui.
C'est l'agriculture en ville, on pourrait dire ça pratiquement, ou la campagne qui se pointe sur...
Oui, tout ça est en lien avec quelque chose dont on a déjà parlé, je pense, dans la quotidienne, le projet, les projets événements de la vie agricole, et notamment les événements agricoles agroalimentaires, qui ont déjà circulé depuis le mois d'avril dernier, puisqu'on sait qu'on a fait des tournées dans les boulangeries de première moisson autour de la thématique du blé raisonné, et tout ça a amené plusieurs idées, et, dont l'idée de faire des journées agricoles, comme dit Michel, dans les centres-villes. Et là, on a rencontré, en fait, la SDC 3e Avenue Limoilou, avec qui on a échangé il y a déjà quelques mois, et on a décidé de faire nos premières activités réellement en centre-ville, mais centre-ville. Activité complète.
Là, ben oui, parce que là,
on en parlera tout à l'heure. Mais...
Dans le quartier Limoilou de la Ville de Québec, pour les gens qui nous écoutent, là, peut-être qui ne connaissent pas bien la Ville de Québec, c'est vraiment le cœur urbain. Là. On est en plein centre-ville. Là.
On est en plein centre-ville de Québec. Et on n'est pas très loin du Grand Marché, d'ailleurs, que les gens connaissent peut-être. Mais et l'idée, nous, c'était vraiment, on en parlera tout à l'heure un peu plus avant du contenu, mais c'est vraiment d'amener tout ce qui concerne, pas seulement des produits, là, tout ce qui concerne l'information autour de l'agriculture aussi en ville. Et pour ça, avant de parler des activités, on avait plusieurs invités dans notre quotidienne. Notre premier invité, c'est Gaëtan Hébert, qui est directeur de la SDC 3 Limoilou. Et, d'abord, pour expliquer aux auditeurs, en fait, c'est quoi une SDC? Parce que moi, j'étais resté effectivement à l'époque où les centres-villes se développaient autour des SIDAC. On appelait ça les SIDAC. Mmh. Et aujourd'hui, la Société de développement commercial, c'est un peu différent, M. Hébert.
Oui. En fait, c'est à l'origine un modèle ontarien que la Ville de Montréal a comme importé dans les années 80 pour créer ce qu'on appelait des SIDAC dans le temps. Au fil des années, comme 15 ans plus tard, le gouvernement a créé une loi pour encadrer les SIDAC. Et 15 ans plus tard, donc en 97, là, les sociétés de développement commercial ont été créées. Donc.
Puis la Société de développement commercial, en fait, je pense, en fait, elle vit entre autres d'un budget des commerçants, parce que les commerçants payent des taxes à cette société, et d'un appui en fait public de la ville de Québec quand c'est à Québec, de la ville de Montréal quand c'est Montréal, c'est ça?
Exactement. En fait, les sources de financement d'une société de développement commercial, ils sont de deux ordres. D'abord, les cotisations des membres, cotisations qui, en passant, sont volontaires. Donc, ça peut plaire à des gens, ça peut déplaire à des gens, mais le fait est que c'est une... Donc, quand un commerce est situé sur le territoire d'une SDC, il doit payer une cotisation. Donc, ça, c'est une source de revenus pour les SDC. Puis l'autre source de financement, c'est directement de la Ville de Québec qui offre du soutien financier pour les activités, pour le fonctionnement d'une SDC. Donc, les deux grandes sources, là, c'est cotisation et financement de la Ville.
Ce que vous dites de cotisation volontaire, est-ce que vous proposez un montant en fonction d'une sorte de volume d'affaires, par exemple, ou bien c'est un montant fixe que vous pouvez ne pas payer, mais vous avez l'air fou parmi le voisinage, hein, j'imagine. Ouais.
En fait, la façon de déterminer une cotisation, c'est au mètre carré occupé, l'espace occupé par un commerçant. Il y a des règles qui sont établies par la ville, à savoir, bon, c'est quoi le coût au mètre carré. Tout. La décision de la SDC, comme à chaque année, peut être d'augmenter d'un certain pourcentage la cotisation ou de le maintenir. Donc, mais à partir d'une tarification là, qui, elle, suit des règles assez précis. C'est sûr que c'est une déclaration des commerçants à savoir quelle superficie j'occupe. Et à partir de là, la ville établit. Et dans le principe de la cotisation, c'est la Ville de Québec qui envoie des avis de cotisation. Donc, c'est la ville qui demande une cotisation. Lorsque ces cotisations-là sont reçues par la ville nous transfère par la suite à la SDC le montant reçu.
Est-ce que la structure juridique pour la création des SDC, lorsqu'on a créé ça, est-ce que c'est une loi qui a chapeauté le tout ou des règlements municipaux? À quel niveau est-ce que ça s'est fait?
Oui, ça s'était encadré par la loi sur les cités et villes. Donc, il y a un article, une partie de cette loi-là, qui encadrait les SDC. Et c'est aussi régi par le code municipal, évidemment. Donc, c'est les deux...
Mais j'imagine que pour un commerçant, c'est sûr qu'on n'est jamais heureux de payer les taxes, mais il y a un intérêt quand même de payer cette taxe-là, parce que l'objectif final SDC, c'est de lui amener une certaine clientèle, c'est amener un réseau de clientèle qu'il n'aurait pas nécessairement.
Oui. Ben, en fait, lorsque les SDC sont créés, sont en action, offrent des services à leur clientèle qui sont les commerçants, dans leur rôle, si on veut, il y a la promotion des affaires sur le territoire de l'SDC. Il y a comme objectif aussi d'augmenter l'achalandage sur le territoire donné, donc qui va bénéficier éventuellement aux commerçants. Établir aussi des services communs qui, éventuellement, peuvent permettre des économies à un groupe donné. Ça peut être l'ensemble des commerçants, ça peut être un groupe précis des membres. C'est d'encourager aussi les investissements, autant publics que privés. Il peut y avoir différents projets qui sont soumis soit par des membres, soit par des groupes, soit par des organismes qui viennent solliciter. Vous aurez un projet à vous proposer sur votre territoire. Donc, il y a de l'investissement qui peut être généré par ça. Et aussi, comme dernier, mais pas nécessairement le moindre, c'est la réalisation d'améliorations physiques en collaboration avec la ville, en fait.
OK, donc ça peut toucher même à l'urbanisme.
Exactement, okay. C'est ça. Donc, si on veut faire la promotion ou mettre en place un nouveau plan d'aménagement de ce territoire-là, dans notre cas, c'est la 3e avenue entre la 4e rue et la 12e rue et une petite partie sur la rue de la Canardière. Ça, c'est le territoire de la SDC. Donc, pour des améliorations physiques, là, la SDC peut intervenir aussi. Okay. Exemple, place Limoilou. Mm-hmm. La place Limoulois, mm-hmm. si on veut, ouais. Qui est un exemple concret de ça.
Ça peut toucher, par exemple, l'éclairage, ça peut toucher les rues, ça peut toucher aussi, j'imagine, les bandes fleuries qu'il peut y avoir. Donc, des aménagements qui rendent l'endroit attrayant.
Exactement. C'est sûr que, en fait, le but visé, ultimement, c'est toujours de créer un achalandage, créer un lieu physique où les gens vont avoir envie d'aller. Et pour les commerçants, bien, évidemment, de faire des affaires avec la clientèle présente. Donc, dans les différents aménagements, ils peuvent être de toute nature. C'est sûr qu'il y a toujours aussi, puis là, il ne faut pas se le cacher, c'est que la participation de la ville qui, elle, va accepter ou non certains aménagements qui sont proposés. Là, ça peut tenir compte des aspects de la sécurité, dans le cas éventuel d'un problème particulier, un incendie, supposons. Donc, la ville est soucieuse, là, pour des aménagements, mais des aménagements qui ne mettront pas en danger autant la vie des personnes que des commerçants comme tel.
Là, vous disiez aussi tout à l'heure que la SDC, bon, ça vient de l'Ontario à l'origine. On disait qu'il y en avait à Montréal, on a parlé hors d'onde tout à l'heure qu'il y en avait 7 à Québec. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des SDC aussi ailleurs au Québec, dans différentes régions du Québec?
À l'origine, le nombre exact qu'il y a présentement, on parlait à l'origine d'une quarantaine de SDC dans des villes comme Shawinigan, Trois-Rivières. Il y avait Verdun dans le temps. Il y a peut-être d'autres villes qui, au fil des années, là, ont créé des SDC. D'ailleurs, il y a un regroupement des SDC de la province qui existe aussi. Je sais que les membres de la SDC 3 Limoilou ont déjà participé à ce regroupement-là.
Qui pouvaient, par exemple, rassembler puis voir un peu comment les défis sont... Comment chacun vit les défis qui leur sont propres. Là. J'imagine
oui.
C'est un peu ça.
Vous avez tout à fait raison, parce que pour me parler, juste pour donner un exemple, la région de Québec, donc, il y a 7 SDC et il y a des rencontres périodiques des gens, des responsables des SDC de la région de Québec. Donc, on se rend compte dans ces rencontres-là que des SDC vivent des problématiques qui sont différentes, tout dépendant où elles sont situées. Exemple, la clientèle, si vous voulez, de Limoilou n'est pas la même que celle de Sillery, mm-hmm. que celle du Vieux-Port, de Saint-Roch, de Saint-Sauveur. Donc, elle est autant la clientèle commerciale, la clientèle des gens, que la clientèle des commerçants eux-mêmes. C'est pas le même type de commerce, donc les besoins sont différents. La grosseur aussi, c'est d'exemple, la SDC de Limoilou, c'est une petite SDC, comparativement à d'autres qui sont plus grosses. Donc, les besoins ne sont pas les mêmes, les problématiques non plus, les budgets non plus. Donc, c'est... Et là, ben, la relation avec la ville, à ce moment-là, ben, les SDC vont avoir des besoins différents qui vont exprimer à la ville pour dire, ben là, on aimerait ça avoir votre aide, de l'assouplissement dans certaines règles, des choses du genre.
Est-ce qu'il y a des aides entre SDC aussi parfois sur des, je sais pas, des activités qui sont passées à Saint-Roch qui vont se retrouver l'année suivante à Sillery, ou est-ce qu'il y a eu des échanges comme ça? Oui.
Je vous dirais de façon régulière, pas nécessairement de façon régulière, mais quand il y a un besoin particulier, il y a de l'entraide entre les SDC. Et les SDC, dans un sens, ne sont pas nécessairement en compétition les unes par rapport aux autres. Exemple, la SDC de Limoilou n'est pas directement en compétition avec la SDC de Sillery, mettons. Mais sans être en compétition, il y a quand même une clientèle...
Une volonté d'avoir une activité meilleure que l'autre.
C'est ça,
c'est ce que je comprends.
C'est ça. Mm-hmm. À titre d'exemple, lorsqu'on fait une demande de soutien financier, une des questions qui est liée un peu à ça, c'est... En quoi votre SDC, par le projet que vous nous présentez, se démarque des autres? Mm-hmm. Quoi est-ce qu'elle est originale? Donc là, sans être en compétition, ben, on essaie de faire valoir l'intérêt.
Il faut avoir une signature, en fait.
Exactement.
Écoutez, M. Hébert, on vous remercie d'avoir nous expliqué un petit peu l'historique de tout ça. On va pouvoir poursuivre, de toute façon, dans le cours de l'émission, parce qu'on veut parler aussi spécifiquement du quartier Limoilou, puis on va recevoir Martin Claveau, qui se trouve être le président de la SDC 3A Limoilou.
Vous allez être en bonne compagnie, c'est sûr.
Merci, M. Hébert.
Merci.
Bonne pause, on revient dans un instant.
Venez participer aux Journées agricoles Limoilou cet automne. Limoilou se veut ainsi un pont entre la ville et nos campagnes. Venez rencontrer ceux qui produisent ce que vous retrouvez dans vos assiettes au quotidien. Sur place aussi, plusieurs kiosques éducatifs et des jeux pour enfants. Le samedi 14 octobre, les rencontres se feront sur le thème « Boissons et vendanges ». Et le samedi 4 novembre, sous le thème « Fondu et fromage ». Une invitation de la SDC Limoilou et de la vie agricole.
Avec le M7 de Kubota, soyez bien équipés pour mieux travailler. Exécutez tous vos travaux d'entretien avec performance, confort et polyvalence. Profitez d'incroyables offres sur les modèles M7 en plus de la meilleure garantie de l'industrie. Visitez votre concessionnaire Kubota pour plus de détails.
La saison 2 de La vie agricole à MaTV, c'est pour bientôt. Cette année, on focus sur les fromages du Québec. Écoutez cet automne et cet hiver MaTV pour découvrir l'histoire et les fromages de la fromagerie Boivin, la fromagerie Les Ancêtres, la fromagerie La Station, la fromagerie Les Basques, la laiterie Charlevoix et de Yannick Fromagerie. Et grâce à l'apport de plusieurs experts, dont ceux de l'Institut Jean Garon, découvrez les enjeux qui attendent les fromagers du Québec dans l'avenir.
Et on continue toujours dans la même veine, si je peux m'exprimer ici. On est en ville, là, hein? On est habitué dans notre émission d'avoir des sujets très très ruraux. Et là, on se retrouve en pleine zone urbaine, dans le Limoilou, hein? En plein centre-ville de Québec, où il y aura des activités à venir, où on va, amener la terre à la table.
Est-ce qu'on peut dire ça? On peut dire la terre à la table, oui. L'agriculture en ville, effectivement, c'est un événement que la vie agricole porte fièrement. Depuis cet été, en fait, pour réaliser des événements qui auront lieu le 14 octobre et le 4 novembre prochain. On va peut-être parler tout à l'heure des contenus, un peu des activités, mais on reçoit avant tout avec Izzy, que vous connaissez, qui participe à toutes nos quotidiennes maintenant, depuis cette nouvelle saison. Et en fait, Izzy, on reçoit Martin Claveau, qui se trouve être le président de la SDC 3 Limoilou, donc Société de Développement Commercial. On a parlé tout à l'heure avec Gaëtan un peu des historiques des SDC, mais Martin, en fait, toi qui es aussi un homme de médias, puisqu'en fait propriétaire du journal Le Carrefour, je pense presque le dernier journal indépendant au centre-ville.
Peut-être pas le dernier.
Il en reste plus beaucoup.
On fait partie de celui-là.
Ça, c'est un bel exploit. En tout cas, bravo pour ça. Et aussi, comme président de la SDC 3 Limoilou, peut-être nous dire la mission de la SDC, on l'a compris un peu tout à l'heure à travers l'historique, mais c'est quoi les activités en fait, qui se sont faites, mettons, dans les deux dernières années en fait. En tout cas, depuis la pandémie, en fait, les choses ont repris. On fait quoi comme activité dans Limoilou, en fait, habituellement?
Ben, évidemment, là, il y a eu une activité qui est annuelle maintenant, qui s'appelle Limoilou en musique, qui a lieu à tous les ans, depuis plusieurs années. Ça a quand même un bon succès, je pense. Là. C'est organisé par l'organisation Limoilou en vrac. Nous, ce qu'on a fait l'année passée aussi, c'est une activité qui s'appelait, 100% Limoilou, qui a été aussi un bon succès. Notre rôle à SDC, c'est vraiment de stimuler l'activité autant économique que d'amener des gens sur la rue. En fait,
est-ce que c'est rythmé mensuellement ou est-ce qu'il y a un calendrier précis? Ou...
Ben, on avait un calendrier. Comme cet été, il y avait de l'animation. On avait un bout de l'artère qui était piétonne. On avait de l'animation sur cet endroit-là. Le dimanche, il y avait un marché
public.
C'est ça, un marché public. Il y avait aussi un marché artisan qui s'est ajouté à ça pour la première fois cette année. Évidemment, il y a eu toutes sortes d'activités. Là, ça allait du yoga jusqu'à... au choral ou...
Yoga. Est-ce que vous avez participé au yoga?
Non, je devrais peut-être. Ma blonde aimerait ça, sans doute, que je fasse du yoga, mais non, j'ai pas été au yoga.
Dans le fond, c'est pas seulement mettre des fois en commun des forces des entreprises ou des services, c'est aussi de s'occuper d'animer, de créer un milieu de vie qui prédispose à un développement économique?
Bon, c'est ce qu'on veut. Idéalement, là, si on veut simplifier, on veut amener du monde sur la rue,
ouais.
Dynamiser.
Est-ce que les gens viennent par expérience essentiellement de Limoilou ou ça vient de partout au Québec ou de partout du Québec?
Je dirais que c'est à peu près 50-50. Le dernier sondage qu'on a fait là, en 2018, je crois, ça fait quand même un bout, là, vous allez me dire, mais la plupart des commerçants avaient c'est 50-50. Il y a des gens qui viennent du secteur. On a quand même c'est ça la force de Limoilou, je pense aussi. Là, une des grandes forces de Limoilou, c'est qu'il y a un marché. Il y a quand même 40-50 000 personnes autour. Fait que tu as un marché, des gens partant. Mais il y a aussi beaucoup de monde qui viennent de l'extérieur, qui viennent acheter du café, qui viennent perdre leur temps dans les cafés aussi, qui aiment ça travailler. J'ai beaucoup de monde que je connais qui viennent en télétravail dans Limoilou. Il y a des gens qui viennent magasiner parce qu'on a certains commerces de destination, comme Article 721, par exemple, là, qui vend des objets assez particuliers.
Puis je pense qu'on peut dire que le quartier Limoilou s'est créé une sorte de signature aussi. Moi, j'ai remarqué ça notamment cet été parce que je recevais des amis qui arrivaient d'Europe. Je suis allé au l'office du tourisme parce que tu vois, t'as tout vu à Québec, tu sais plus trop quoi leur montrer.
Ouais.
Et je suis tombé sur le cahier de l'office du tourisme de la ville de Québec et c'était classé par quartier. Et là, j'ai découvert qu'en fait, c'est le même principe qu'à New York. En fait, tu vas à New York, on te fait visiter les quartiers.
Il y a des secteurs, oui, c'est ça.
Là, en fait, ils ont fait pareil. C'est-à-dire que tu as le quartier Montcalm, tu as le quartier Limoilou, tu as le quartier Saint-Jean-Baptiste. Et chaque quartier est identifié avec sa thématique, sa mission. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que j'avais pas perçu la ville de Québec forcément dans des identités différentes selon ses quartiers. Ouais. Puis c'est comme ça que c'est présenté aux touristes aussi aujourd'hui.
Oui, ben, je pense que Limoilou, c'est un quartier qui est relativement vrai. Pour des touristes, là, parce que j'en vois de plus en plus. Mm-hmm. Un problème qu'on a peut-être à Limoilou, c'est qu'on n'a pas d'hôtel. Si on remarque, il n'y a aucun hôtel.
Effectivement, bon point.
Il y a beaucoup de Airbnb, mais puis j'en vois là, vraiment beaucoup des touristes. Encore cet été, j'en ai vu, j'en vois l'épicerie, j'en vois sur la 3e avenue. Mais c'est un quartier qui est vrai, dans le sens que il n'y a pas de... pas tant d'attrait touristique que ça.
Non, il n'y a pas de flafla. Il n'y a pas de flafla, exactement.
La vraie vie. Puis en même temps, Limoilou, c'est quand même un quartier particulier parce que, je veux dire, bien noblement, d'après moi, le nom de Limoilou, ça doit être un des noms de quartier qui est le plus connu au Québec. Tout le monde connaît le nom de Limoilou. Pas tout le monde est venu, bien sûr, mais tout le monde connaît Limoilou.
C'est un peu comme Montréal quand on dit Verdun. Tout le monde connaît Verdun. Quand on parle de Québec, Limoilou, tu sais,
c'est dans
la chanson d'RBO, je m'en vais chez nous, Limoilou. Ouais. C'était pas juste parce que ça rimait, parce que c'est un quartier que tout le monde connaissait.
tu me parles de Montréal, j'ai des amis à Montréal, puis quand je veux leur faire un cadeau qu'ils aiment, j'amène un gilet marqué Limoilou ou une calotte marquée Limoilou, puis ils sont super contents d'avoir ça. Puis eux autres, ils restent dans la petite patrie. Puis dans...
Exact.
Fait que donc, je pense que Limoilou a quand même une certaine aura. C'est cool.
Une notoriété, quand même, au Québec. Oui, quand même. Tout à fait.
Alors, on s'en va sur, justement sur des activités qui vont avoir lieu 14 octobre et 4 novembre prochain. Et comme on l'a dit un peu en introduction de l'émission, ce qu'on veut, c'est amener l'agriculture en ville. Alors, c'est un peu un défi parce que nous, on a fait le constat quand même depuis plusieurs années pour être dans un média spécialisé qui se distribue dans les fermes et qui est en contact avec les producteurs à la base, qui a une belle déconnexion en fait entre le monde rural et les consommateurs souvent, à peu près dans tous les dossiers. Puis ce qui nous a vraiment mis l'accent là-dessus, c'est que quand la pandémie est arrivée, on s'est trouvé à créer des émissions. On avait commencé un petit peu avant la pandémie à faire des émissions télé-web, mais on a fait des émissions Zoom pendant la pandémie. On a parlé avec du monde de l'agroalimentaire, avec des consommateurs, avec des décideurs. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait un attrait tout d'un coup, même politiquement, là, il y avait un attrait pour la souveraineté alimentaire. C'est le message qui est le plus passé, je pense, de la part du gouvernement dans toute la pandémie. Mais souveraineté alimentaire, ça veut dire qu'il faut que les gens de la ville comprennent d'où viennent les produits, en fait, d'où vient le lait, d'où viennent les œufs. Donc ça, c'est des choses qu'on a essayé de démystifier un petit peu dans les quotidiennes qu'on a fait depuis 3 ans, parce que nos quotidiennes sont écoutées dans des radios FM partenaires en région. Donc on parle maintenant aussi à des auditeurs consommateurs. Et là, on s'est dit l'étape de plus, ce serait peut-être de rencontrer les consommateurs.
Tout
ce serait
fait.
Bien de pouvoir faire ça.
Oui.
Et bon, en tant que média, à la base, c'est pas forcément évident parce que c'est toujours de se restructurer un peu différemment. Mais on l'a commencé, comme je disais tout à l'heure, notamment avec le partenariat de l'Institut Jean Garon, avec le partenariat des Céréalies du Québec. Lisite était là l'autre jour quand on a parlé du blé raisonné, quand on a parlé de la fameuse tournée qu'on a fait depuis le mois d'avril dans les boulangeries de première moisson. Donc là, on s'est rendu compte qu'on pouvait rentrer des producteurs comme les Céréales du Québec dans des premières moissons, rencontrer des consommateurs et faire le lien
faire
entre le producteur
ouais.
et le consommateur. Et ça, ça nous a amené à dire, ben, c'est peut-être ça qu'il faudrait faire sur à peu près l'ensemble de l'agriculture. Donc là, on est allé rencontrer SDC 3A Limoilou. On s'est dit, pourquoi on ne ferait pas un projet? Le premier projet dont on a parlé, Martin, je pense, autour de la table, c'était de dire, on va faire une ferme en ville. Voilà, on s'est dit, une ferme en ville, ça prend quand même des animaux, il y a le bien-être animal. Faut réfléchir à plusieurs étapes avant ça. Donc ça, c'est peut-être un projet pour plus tard. Mais à court terme, on va quand même approcher de cet esprit de la ferme en ville, parce qu'on fait une thématique moisson-vendange le 14 octobre, une thématique fromage et fondue le 4 novembre. Et en fait, ça va se traduire par à la fois la présence des commerces de Limoilou, parce que la façon dont le concept a été pensé par Christian, qui est notre collaborateur, c'est qu'il y a un côté de la rue qui va être pour les commerçants de Limoilou, pour qu'ils puissent avoir des kiosques, des stands dans la rue. Il va y avoir de l'autre côté, en fait, des kiosques qui vont venir d'ailleurs. En fait, il y a des contacts actuellement, on a des contacts avec des gens qui font du fromage de chèvre, d'autres qui font l'élevage et la transformation
de porc. Des producteurs?
Producteurs et transformateurs aussi, okay. En fait, les céréaliers du Québec, entre autres, qui veulent venir, parce qu'il faut comprendre que, oui, c'est du terroir. En fait, l'idée, c'est qu'on veut amener du terroir, mais on ne veut pas juste faire un marché de terroir. Oui, il faut qu'il y ait du terroir, mais il faut que les gens comprennent aussi. Donc, si on veut
oui,
que les gens comprennent.
C'est la partie qui est plus, là.
Ben c'est ça, il faut que les gens disent ah ben, je voudrais comprendre, mettons, comment on fait pour faire du blé pour notre pain. Et donc, on ne fait pas beaucoup, puisqu'on sait qu'on fait notre pain avec du blé qui vient à 90%, 80% de l'Ouest canadien. Ben là, il y aura sur place un kiosque des céréaliers du Québec qui vont pouvoir expliquer c'est quoi leur intention de faire du blé au Québec. Il y aura des gens de première moisson qui vont être là. Il y a l'Institut Jean Garon qui nous a dit qu'ils auraient aussi un kiosque pour parler, eux, plus du zonage agricole. On sait que dans Limoilou, vous n'êtes pas très loin des terres des Sœurs de la Charité, qui ont été un grand débat dans les dernières années, qui ont été sauvés in extremis là, par le ministre Lamontagne. Ben, l'Institut a été très impliqué dans le sauvetage, je veux dire, des terres des Sœurs de la Charité. Donc tout ça, c'est des gens qui vont être présents, qui vont pouvoir rencontrer les consommateurs. Mais à travers ça, le consommateur, il continue, il se balade dans les Limoilou. Il a des enfants, il y aura des jeux pour enfants, des jeux gonflables. Il veut voir c'est quoi l'agriculture. On a fait un partenariat avec Groupe Bossé, qui va nous amener deux énormes tracteurs qui vont être placés dans la... Donc, on veut vraiment à la fois qu'au niveau visuel, l'agriculture soit là, mais on veut aussi que les gens s'intéressent et comprennent oui. le fonctionnement de l'agriculture.
Et je pense que le timing aussi est très, très bon, puisque au niveau alimentaire, déjà, les gens s'intéressent de plus en plus à d'où proviennent justement ce qu'ils ont devant eux quand ils mangent. Fait que un événement comme ça, je pense que ça va aller chercher beaucoup de gens, parce que justement, de savoir le pain quand on l'a devant nous, avant, on ne se posait pas la question.
Puis il y a tout l'aspect écologique aussi.
Oui.
De plus en plus, on est conscient que le transport de la nourriture a un impact
exact.
Direct au point de vue écologique, et de pouvoir avoir des sources proches de nous, autour de nous, ça devient de plus en plus important. Et dans un contexte comme celui-là, ben, ça nous permet de mieux connaître les producteurs qui sont autour de nous.
Oui. Mais je pense aussi que le fait que Limoilou est un quartier qui est quand même assez sensible à la cause environnementale en général, ne serait-ce que pour la question de la qualité de l'air, donc il y a question beaucoup. Je pense que les gens du secteur sont très sensibles à cet aspect-là. Fait que je pense que c'est un bon choix de faire une activité comme ça sur la troisième.
Oui, et en fait, ce qui va s'ajouter aussi à ça, parce que Michel et Izzy qui sont là vont être présents aussi. On a des partenariats avec plusieurs médias de la ville et même des médias du Québec, en fait, qui vont participer. Et en fait, avec Choc FM, entre autres, il y a une participation pour qu'il y ait une animation, en fait.
Oui, et puis on va être là pour représenter l'ensemble des radiodiffuseurs régionaux qui diffusent l'émission qu'on écoute.
Et comme ça, les gens vont pouvoir voir nos binettes.
Oui, donc là, l'idée, en fait, moi, je résumais ça l'autre jour, je sais plus à qui je parlais, on me disait, mais ça va être quoi exactement, Limoulou? Moi, je traduis ça en disant, ça va être la fête au village. Oui. C'est un peu ce qu'on s'est dit. Si on pouvait recréer l'esprit d'une fête au village, des animateurs, je sais que je pense pas le 14, mais le 4 novembre, Christian me disait qu'il a travaillé avec un contact avec un chansonnier parce que le 4 novembre, on n'est plus dans le moisson, là. On n'est plus dans le moisson et dans le vendange, on est dans le fondu et fromage. Puis là, on va être avec des transformateurs fromagers, en fait.
Et météo va s'y porter, ben, là. Ça va être frais à l'extérieur.
À l'extérieur, oui. Il y aura des chapiteaux de toute façon.
Ça va être génial.
Mais l'idée, c'est que les gens rencontrent en fait les fromagers, parce que ça fait partie aussi d'un concept qu'on a développé, puisqu'on tourne actuellement avec Ma TV une série sur les fromages du Québec et les fromagers du Québec. Puis là, on est en train de prendre entente avec ces fromagers qui sont dans le tournage de Ma TV, en leur disant l'apothéose de tout ça, ce serait d'être présent à cette journée. Et puis là, on a quand même pas mal de réponses positives. Donc je pense qu'on va avoir ces fromagers-là qui vont venir à Limoilou pour présenter leur fromage et parler de leur métier, parce que c'est aussi ça important. C'est de comprendre aussi que derrière chaque produit qu'on a quelque part sur une table, sur une tablette, il y a une histoire. Il y a une histoire, il y a un métier, il y a une histoire familiale. C'est un peu tout ça que les journées veulent traduire, en fait.
Excellent, ça va être un rendez-vous. Donc, on rappelle les dates, Yannick?
Alors, première journée, 14 octobre, moisson et vendange. Deuxième journée, 4 novembre, fondue et fromage.
Et ça se déroule à quel endroit?
À Limoilou. Sur la 3e avenue à Limoilou.
Entre la 10e et 11e, oui.
C'est évident, c'est à Limoilou. Et je pense que pour les auditeurs, ça peut être une occasion de venir, surtout les gens qui nous écoutent, je pense aux gens qui nous écoutent peut-être à Rivière-du-Loup, à Saint-Georges, ça peut être l'occasion de venir découvrir le quartier Limoilou au-delà du Colisée ou du centre Vidéotron,
ah, oui,
qui est le secteur qu'on est habitué. D'aller voir qu'est-ce qu'il y a autour, là. Et toute cette vie commerciale et commerçants de proximité sur la rue. C'est intéressant de pouvoir venir voir cet événement-là. L'invitation est lancée, bien entendu.
Et voilà.
Merci, Michel.
Merci beaucoup. Merci beaucoup à M. Martin Claveau, qui est le président de la SDC3A Limoilou. Également propriétaire du média Le Carrefour qui dessert le secteur de Limoilou, je présume. Alors voilà, merci beaucoup.